ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.
Chers auditeurs de Radio B, je vous salue et comme le veut la coutume, puisque nous sommes au mois de janvier, je vous souhaite une belle année 2023, une année riche en surprises, en petits bonheurs inattendus, en grands bonheurs aussi évidemment, mais comme vous le savez, ils sont plus rares ceux-là, donc sachons apprécier tous les instants et plus particulièrement ceux qui nous emmènent ailleurs, là où rien ne nous prédisposait à mettre le pied. Et si je dis cela, c'est parce que le poète dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui a débarqué dans mon univers un peu par hasard. Et pas avec des mots, mais avec des sons. Les sons que voici. Original, ce Requiem, n'est-ce pas? En fait, l'album dont il est issu s'appelle Hypnos. Hypnos, c'était le dieu du sommeil dans la mythologie grecque. fils de Nyx, déesse de la nuit, et frère jumeau de Thanatos, dieu de la mort, et aussi père de Morphée, dieu des rêves. Il apparaît ainsi au centre d'une cosmologie divine rattachée au nocturne et à l'énigmatique. Ce n'est pas moi qui parle, mais Simon-Pierre Bestion qui dirige le chœur dans cet album, où il a rassemblé un certain nombre de pièces sacrées qui revêtent chacune une sorte de magnétisme incantatoire qui vise à procurer à l'auditeur certains effets qui peuvent aller du simple réconfort à une communication avec l'au-delà. Pour cela, il a choisi un éventail de compositeurs allant du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Et parmi les modernes, il y a Giacinto Scelsi, qui a retenu mon attention. Et je me suis rendu compte en allant un peu fouiller sur la toile que ce compositeur, aujourd'hui disparu, était aussi poète. Le recueil que je me suis procuré pour découvrir ces textes s'appelle « L'homme du son » et il a été publié aux éditions Actes Sud en 2006. Il réunit les poèmes inédits tirés de plusieurs manuscrits composés entre 1945 et 1985. C'est donc à la rencontre de la musique et de la poésie de Giacinto Scelsi que je vous propose de vous embarquer aujourd'hui. Et je me réjouis tout particulièrement du fait que, pour la première fois depuis bientôt 8 ans d'existence de cette émission, poésie et musique soient réunies en une seule personne. Et en l'occurrence, quelqu'un de pas banal, comme vous allez vous en rendre compte. Pour vous situer un peu le personnage avant d'entendre ses créations, je vous livre une partie de l'avant-propos de l'homme son. Alors, il est fait référence dans cet avant-propos à un autre poète italien qui a précédé Scelsi, qui s'appelle Giuseppe Ungaretti, qui est né en 1888, mort en 1970. C'est un des grands noms de la poésie italienne. Il a promu dans son œuvre la recherche d'une harmonie rénovée avec l'univers. Et à l'époque des deux guerres mondiales, l'époque qu'il a vécue, il voyait en la poésie le seul moyen de sauver l'humanité de l'horreur. Un vers de Giuseppe Ungaretti resté célèbre, c'est « M'illumino d'immenso »,« Je m'illumine d'immensité ». Ce cri extatique de Giuseppe Ungaretti, la poésie de Giacinto Scelsi pourrait le pousser si elle était à même de se définir. La poésie, si poésie il y a, refuse et détruit chaque tentative d'explication. La poésie est, un point c'est tout. C'est elle qui mène l'homme vers son intérieur, qui est espace illimité. Comment vouloir expliquer la poésie, puisque c'est elle qui explique le monde? Pour Giacinto Scelsi, poésie et son constituent cet espace illimité, cette lumière qui nous unit avec l'univers. L'homme et l'univers, conçus de la sorte, ne font qu'un. Mais seulement ainsi. Lui, Scelsi, se veut messager, imbu, pénétré, imprégné de ce qu'il entend en lui-même et qu'il transforme en poésie verbale ou musicale. Il nous le communique au plus haut degré d'incandescence, là où l'incantation, incantesimo, dit-il, commence à agir. Scelsi se concevait comme simple véhicule par qui passe ce qui, perpétuellement, est en devenir. Cependant, que l'on se détrompe, le clair ne provient pas du clair, mais de l'obscur, de la nuit la plus profonde, comme dit Henri Michaux, ami de Scelsi. Obscurité entre d'où tout peut surgir, où il faut tout chercher du côté le plus obscur de la nuit. Giacinto Scelsi, né dans une famille noble à La Spezia en 1905 et mort à Rome en 1988, portait le titre de comte d'Ayala Valva et il disait recevoir sa musique des Devas, les divinités hindoues. Ce fut dès le départ un compositeur d'avant-garde et il se définissait lui-même comme un intermédiaire par lequel passaient des messages en provenance d'une réalité transcendantale. Il travaillera dans l'ombre la majeure partie de sa vie. jusqu'à ce qu'il suscite l'intérêt de jeunes compositeurs français dans les années 70 et que son œuvre soit depuis lors reconnue et jouée, tout en restant, il faut le dire, assez confidentielle. C'est pour lui rendre hommage et réhabiliter sa mémoire que l'un de ses descendants, Sebastiano d'Ayala Valva, a tourné un film qui s'appelle « Le premier mouvement de l'immobile » et qui est visible sur le site d'Arte. Je vous en livrerai quelques passages au fil de l'émission qui vous permettront de mieux cerner le profil singulier de Giacinto Scelsi à travers ses propres commentaires ou ceux de personnes qui l'ont côtoyé.
Il ritmo di nascere e morire è come un'inspirazione e una espirazione. Così le nostre vite vengono e vanno. Si può pensare al nostro fiato come vita e noi le individualità attraverso le quali questo passa in un corpo poi in un altro.
Traduction: le rythme de la naissance et de la mort est comme une inspiration et une expiration. Ainsi nos vies viennent et vont. On peut entendre notre souffle comme la vie et nous sommes les individus à travers lesquels cette vie passe dans un corps, puis dans un autre. Cette affirmation est corroborée par l'inscription qui figure sur sa tombe, en dessous de son nom. En italien, « qui di passaggio », en français, « ici, de passage ». De l'écorce de la nuit, violée par l'éclat des cymbales, surgissent éperdument rapides les fusées, translucides flambeaux de la mort entre les doigts, dont se forment les forces convulsives des grimaces monumentales et les cris de gel incolore des squelettes vindicatifs incrustés au creux des livides épouvantes. Et des profondeurs poignardées du silence, la solitude, aveuglée de reflets, ramasse ses membres épars avec des torchons de sang. Voici que s'éteint toute source de lumière. Nous n'entrerons pas dans l'éther de nos vœux. Dans ce monde qui refroidit, nous sommes déjà glacés. Ce sont les barbares qui chaque fois font les civilisations. Voici le moment de leur passer la main, que chacun demeure fidèle à son destin. C'était un solo de clarinette, plus précisément de corde basset, que vous venez d'entendre. Le corde basset a un son plus grave. Il était joué ici par Carol Robinson. Les deux textes que vous avez entendus font partie du premier recueil intitulé « Le poids net », paru en 1949. Dès les années 30, Chelsea fait de fréquents voyages à Paris et entre en relation avec le poète Pierre-Jean Jouve, qui l'aidera ensuite à s'installer en Suisse pendant la Deuxième Guerre, lorsque Jouve et sa femme seront inquiétés pour leur prise de position contre le régime nazi. Et c'est Jouve, justement, qui lui fait connaître, après-guerre, l'éditeur Guy Lévy-Manot, qui va publier « Le poids net » et dont Chelsea se souvient en ces termes. C'est grâce à Jouve que son éditeur, Guy Lévy-Manot, qui publiait aussi presque tous les meilleurs poètes français comme Michaud, Pierre-Emmanuel, Tristan Tzara et d'autres, publia trois petits volumes de mes poésies en français. Et c'est une chose assez curieuse, car qu'un étranger écrive et réussisse à se faire publier en français était pour la grande majorité des lettrés français une chose incroyablement présomptueuse. Avec cette supériorité qu'ils s'accordent à eux-mêmes, ils considéraient cela presque comme une injure. De toute manière, ces petits volumes furent publiés grâce justement à l'intervention de Pierre-Jean Jouve et je lui en suis toujours très reconnaissant. Pourquoi ai-je écrit en français ? Eh bien voilà, je dois avouer que j'écris plus facilement en français qu'en italien. Je peux dire que quand j'ai à écrire quelque chose d'un peu difficile, par exemple des notes de programme pour ma musique ou des essais sur l'esthétique ou d'autres choses de ce genre, j'écris en français plutôt qu'en italien. Puis, si c'est nécessaire, je traduis en italien. Je considère que le français est une langue beaucoup plus souple que l'italien, dont la phonétique est, dirais-je, toute sur les touches blanches, sans demi-ton ni chromatisme. Elle n'a pas le « e » et le « ui » français. Ne parlons même pas des langues anglo-saxonnes et encore moins des langues orientales qui ont un chromatisme phonétique extraordinaire, même pour les consonnes. L'italien est une langue faite de granit, destinée aux monuments qui portent des épigraphes et aux constructions de marbre. Et un peu plus loin, il dit ceci. Attention, ne me demandez pas ce qu'est pour moi la poésie. Sinon, je n'en finirai jamais avec mes histoires. Mais je me souviens d'une phrase, je ne sais plus qui en est l'auteur. La gloire du poète, est de dire plus qu'il ne sait. De même qu'il se refuse à définir la poésie, Chelsea n'a pas non plus de formule pour définir la musique.
Che cos'è la musica per me? Una definizione di quello che è musica e di quello che non è musica non c'è. La musica degli 88 o dei Pigmei, per esempio, per un operista o anche un cantante europeo, non è certamente musica né canto. Fino a qualche tempo fa penso che anche la bellissima musica tibetana poteva essere considerata musica affatto qui in Europa e così via, insomma.
Qu'est-ce que la musique pour moi? Une définition de ce qu'est ou de ce que n'est pas la musique, cela n'existe pas. La musique des Hottentots ou des Pygmées, par exemple, pour un compositeur d'opéra ou un chanteur européen, n'est ni de la musique ni du chant. Il n'y a pas si longtemps, même la merveilleuse musique tibétaine n'était pas considérée comme de la musique en Europe. Et ainsi de suite.
È il suono che conta, non tanto la sua organizzazione o disorganizzazione. E il suono è forza. Qualunque disorganizzazione di questa forza produce degli effetti cattivi o non produce effetti affatto. suono è il primo movimento dell'immobile. E ciò spiega tutto, spiega la creazione. In certa conoscenza occulta, che poi ha delle origini antichissime, forse degli uomini primitivi anche, vi si trova in ogni modo una corrispondenza nell'idea che la forza cosmica, per esempio, sia addirittura un fenomeno acustico.
Ce qui compte, c'est le son. Pas son organisation ou sa désorganisation, le son est une force. N'importe quelle désorganisation de cette force produit des effets négatifs ou pas d'effet du tout. Le son est le premier mouvement de l'immobile. Cela explique tout, la création même. Selon des connaissances occultes aux origines très anciennes, remontant peut-être aux hommes primitifs, on trouve l'idée que la force cosmique serait un phénomène acoustique. Utopique volonté des chercheurs de cailloux dans les arcs-en-ciel. Les cerveaux démantelés sont plus près du poids net de l'univers. N'importe comment, à chacun, un jour, sera donné le printemps, et les rêves seront comblés pendant le temps de la veille. Malheur à ceux dont le cerveau sera couleur de plomb. Le silence aura, un jour, une âme neuve et le savoir du sommeil sera plus profond que les racines des arbres centenaires. Malheur à ceux dont le rire renversera la nuit en vain. L'attraction démoniaque des ombres ravage le plaisir drapé dans les ailes folles. L'homme a découvert le cri du monde défunt et l'inconnu grandit avec les décombres. Personne ne songe aux flammes conservées dans les tiroirs où résident les rêves inacceptables, au silence imposé par les témoins des crimes successifs et les crapauds résonneurs. Mais la dame de la folie inonde des cachettes impénétrables d'insouciance phosphorescente à la dérive. Et dans une immense lumière, les animaux monstrueux au mouvement ralenti vont tordre, mutiler, étrangler dans un faisceau de haine en leurs crocs d'acier, les hommes suspendus aux pensées transparentes de leurs flacons vides. D'un monde pétri d'absurde, d'un monde pétri d'absurde violence, étayé de transe et de sel noir, fourmillant de passagers à la dérive, algues spectrales passées au rouge de la flamme, affleure la tête de l'homme, hors d'haleine. La maison hantée et la complète obscurité soulignent le caractère hallucinatoire des étoiles inscrites sur le fond des yeux. Cependant, la chasse à l'inconnu, sans abri, se poursuit avec acharnement. Et les couteaux s'enfoncent, sans rencontrer de résistance, dans les brouillards entassés autour de cet éclat de conscience. Longue succession des aberrations auxquelles rien n'échappe, sinon les messagers inconscients des émerveillements, planant au-dessus des étangs de la douleur. Loin de moi, les arbres circulaires, les grands iris, l'ombre verte qui n'est que mensonge. Loin de moi, le bruit du soleil, la grêle et l'orage. Loin de moi, la mer impérieuse et les étoiles au fond du silence. Loin de moi, les hommes aux mâchoires de crapaud, et la jeunesse et le sang. Loin de moi, mon semblable, enfant glorieux du lendemain. Loin de moi, le cri des trompettes, l'espoir et l'espace. Je vais dans un pays sans nom, sans chiffres et sans mots, sans phrases, et sans piège, où règne le fou rire, rêver la mort des rêves. Solitude négresse aux dents de feu, entière, infernale et dévorante, qui crache le pacte millénaire passé complaisamment entre les hommes. Négresse aux yeux brûlants, étincelante d'un monde à faire peur, où vibre le silence d'une effrayante mémoire inventant le destin. Négresse à la peau d'ombre, émaillée d'astres brisés de paraboles, éclair d'éternité où s'anéantissent nos corps abreuvés d'innocence. Négresse aux bras de sommeil, tombeau des gestes inquiets qui surnagent, immobile grandeur d'où surgit à chaque aube Hermès Trismégiste. Solitude négresse, chaussée d'azur, parfumée d'amour solitaire et de mépris, ombilique démesuré, mangeur de fleurs, mangeur de fruits. Tentation au néant. bateau de la nuit. Ô solitude. La musique que vous avez entendue avec ces quatre textes est une composition de Giacinto Scelsi pour violoncelle solo, intitulée Vecchiaia, vieillesse. Et cette tonalité grinçante m'a paru bien convenir au contenu des poèmes. En effet, Scelsi dépeint un univers d'ombre plein de violence, de menaces, de monstres dans lequel se débattent les hommes, avec souvent pour seul échappatoire le rêve. N'oublions pas que ces textes sont écrits dans l'immédiate après-guerre et on peut penser que les horreurs qui viennent d'être perpétrées par le régime nazi n'incitent guère à croire en l'humanité. À cela vient s'ajouter le fait que Scelsi traverse alors une grande crise morale et spirituelle qui le conduit à être interné en hôpital psychiatrique et lui fait profondément remettre en question son art et sa vision du monde. Ceci dit, je trouve que les poèmes de Scelsi ne détonnent pas avec l'atmosphère oppressante de notre monde d'aujourd'hui et ces nombreuses crises qui affectent non seulement les sociétés dans leur fonctionnement, mais aussi les individus dans leurs ressources vitales. Toujours appartenant au recueil Le Poids Net, voici une série de trois textes. Éteignez les feux du miroir qui éclairent ce qui n'est plus à l'homme est la vulnérabilité de ce qui est humain encore. Entassés l'un sur l'autre, le cœur là et les rêves, afin que la courbe de leur ombre émeuve les dieux. L'ordre de ma vie. Les sentiers et la grande route, les montagnes, les avalanches et les neiges d'éternité. Les barques minuscules, les transbordeurs de marchandises sous le soleil des ports. Les relais effrénés des vagues, l'air pur et la tempête, l'herbe fine et la végétation rampante. Les horizons de dentelle et les brumes des paysages à corbeaux, les dunes et l'espoir des sources. Les châteaux des tyrannies et les pierres terrifiantes à l'heure des monstres. Les tentes du sommeil nomade et les cathédrales aux prières en flèche. Les rues des possibilités étincelantes et les murs affamés de la fatalité en marche. Les maisons aux fauteuils d'ennui et les têtes renversées de l'éternelle insomnie. L'abîme doublement occulte des yeux crayonnés. Les voraces sillons et l'énergie dramatique des lèvres incandescentes. Le sang bercé avec la paume et l'envie de dormir, les éclats de rire et le goût de suicide au bout des bras. Les êtres dont les regards ont la fraîcheur du soir et le cadran rouge des brûlures du mensonge. Les hommes à la voix de chacun et ceux dont les gestes sont des roues dentées. Sur mer, sur terre, parmi les éventails de lumière et l'éclat des flammes sans nom, les nappes d'obscurité artificielle et la fermentation d'étoiles sous les paupières, les mélodies qui font surgir les algues et les statues où résident les rêves, parmi le hasard des nuages et les gros cailloux du délire inépuisable, j'ai voyagé dans la crique de la destinée. Marche au fond du monde visible et lucidité merveilleuse de l'oubli. Cette suite numéro 10 pour piano était interprétée par Marianne Schroeder, qui témoigne elle aussi dans le film sur Chelsea. Et lorsqu'on lui demande si elle le jugeait fou, elle répond que pour elle, il était merveilleusement fou, parce qu'il était la création même. En fait, dit-elle, il était tellement libre qu'il passait pour fou, mais il était juste fou de liberté. Il disait qu'il composait dans un état d'illumination, d'immensité illuminée. Et on retrouve la parole d'Ungaretti que je vous ai citée en début d'émission. Il disait qu'il n'était pas responsable de sa musique. Selon le réalisateur du film, à l'époque où il était interné à Montreux, Chelsea se mettait au piano et jouait la même note pendant des mois. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à sonder l'univers d'un seul son. Il ne cherchait plus le mouvement horizontal d'une composition de notes, mais une plongée verticale dans la vibration d'une note. Il commença alors à travailler avec un des premiers instruments électroniques qui s'appelle l'ondioline et qui possède la capacité de produire des intervalles inférieurs au demi-ton, c'est-à-dire quart de ton ou huitième de ton. Il procédait par improvisation, qu'il enregistrait et parfois superposait, puis qu'il confiait à des copistes, ce qui a fait dire à certains qu'il n'était pas l'auteur de ses œuvres. Mais il est clair aujourd'hui que Giacinto Chelsea a influencé par sa pensée et par son écriture une majorité des compositeurs actuels de musique. On dit que lors de leur première rencontre, Chelsea demandait aux musiciens de jouer une seule note au piano, mais de 10 façons différentes. Il voulait qu'il se laisse traverser par le son plutôt que d'enchaîner des notes. Ils voulaient que de tout leur corps, il ne soit plus que vibration, le temps d'une onde sonore. Parmi ces interprètes, il en est une dont on ne s'étonne pas qu'elle soit proche de Giacinto Scelsi, c'est la contrebassiste française Joëlle Léandre, qui navigue entre jazz, musique improvisée, musique contemporaine. Elle a interprété et connu personnellement Scelsi. C'est ce qu'elle évoque dans l'extrait que vous allez entendre.
J'ai appelé Giacinto. Voilà, je suis Joëlle Léandre, écoutez, je joue votre musique. J'ai pas pu finir la phrase. Vous jouez quoi? Alors j'ai dit, je suis contrebassiste. Vous venez quand me voir? De suite. Mais dans les 10 minutes. Il a voulu que j'aille à Rome, parce que je jouais sa musique. Il voulait me rencontrer. Il me dit, vous prenez le train et vous venez me voir. Je sais pas si j'ai pris ma basse la première fois. Je crois que oui. Il me regardait avec ses grands yeux, me disait, je veux un son. Cherche, il me disait, cherche un son d'ailleurs. Il était attiré surtout par la transcendance. Et je suis la dernière musicienne qui tient la main. Il est parti le 8-8-88, il savait. Il voulait que je sois là.
Sommeil. Tout près de la mort, qui défonce les horizons et mène à rebours vers l'impalpable souffle. Ombre ravagée de sortilèges, ivresse nonchalante, léthargie accrochée aux ailes de lumière. L'homme jaillit, aérien, autour des nébuleuses, fouetté par les lueurs fulgurantes des hallucinations. Borne d'oubli. Contre terre, il est couché, jusque dans son sommeil où brûlent les comètes. Par en haut, un souffle le soulève dans le champ des nébuleuses. Après Le Point Net, le deuxième recueil de Scelsi, L'Archipel Nocturne, est publié en 1954 par le même éditeur. Puis vient le troisième, intitulé La conscience aiguë. En voici 3 extraits, toujours entre ombre et lumière. Encore chevauchent au loin les rythmes à l'extrême portée de la vie obscure. Bientôt, debout sur nos tombes, pousseront les rameaux innombrables d'une multiple vie, champs de feu s'élevant de la terre assombrie vers l'éclat des mondes lumineux. Noire structure intérieure, traversée de chutes éteintes. Personne folle, obscurcie, ombre ouverte aux rafales perdues. Invisible caillou, vide, paroles errantes aux rênes de la mort.
Thank you.
Une fois par nuit, à mesure d'homme, monte la peur sur une lame lisse. Le poids s'en va. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Agrippé sur l'onde du passé, il faut pourtant glisser, englouti, surnageant, douleur à la chaîne et masque brisé devant la porte où tremble l'avenir. Une fois par nuit, à mesure d'homme, brille l'infini sur une lame lisse.
Le son est sphérique et rond, et donc toute chose qui est sphérique a un centre. Ça, on peut le montrer scientifiquement. Le son a un cœur. Il faut arriver à ce sens. Alors, on est musicien. Sinon, on est artisan. Un artisan de la musique, c'est que très respectable. Mais on n'est pas véritable musicien ni véritable artiste.
Voilà, encore une fois la parole de Chelsea. Et avant cela, vous avez entendu deux textes avec un solo de clarinette. Et c'était une composition qui s'appelait « Tre pezzi ». S'interroger sur son travail de musicien, expérimenter sans cesse, improviser, faire des collages et retravailler les sons, les tordre comme une matière première, avec la conviction qu'il lui ouvrirait les portes d'un ailleurs, se nourrir des préceptes de différentes mystiques, autant de traits qui ont certainement concouru à ce que Giacinto Chelsea soit vu en son temps, par certains, comme un illuminé. Lui qui refusait de se faire photographier pour ne pas perdre son âme, disait-il. Et pourtant, c'est un artiste unique dans l'histoire du XXe siècle, un artiste qui a énormément composé, depuis les pièces pour instruments solos jusqu'à celles pour chœur et orchestre, et dans le même temps, un poète qui nourrissait sans doute, pour le langage, ses textes en témoignent, la même fascination que pour la musique. Voici pour terminer quelques poèmes issus de manuscrits inédits sur un morceau intitulé « Riti funerali », « Rites funéraires ». À ce propos, Chelsea était fasciné par le chiffre 8 et il avait prédit qu'il mourrait le jour où les chiffres 8 seraient alignés. Et il est effectivement parti un 8 août, le 8-8-1988. Explorer les voies qui communiquent avec l'univers entier. Organiser l'attention sur un minimum d'espace. Cela dépend du souffle. Se déréaliser, c'est-à-dire prendre une autre réalité. les mots, toujours plus obscurs. Le vide, plus clair, plus vide. La fin. Origine et limite, le cri et le soupir. Viens. Je suis calme. D'autres seront sur la terre étrangère. Devant le mur, j'attends le son inconnu, hanté de fantômes, que mon rêve écoutait. L'ombre monte, mais je suis calme, jusqu'à la dernière étoile. Plénitude, sans crainte, calme de l'ordre sans mesure. Dans le plein azur, s'éternise inexprimable la permanence du souffle mystérieusement isolé. Au-dessous du monde fermé, les sentiers qui mènent, loin de la saveur de l'inutile, vers les souveraines terres d'extraordinaire splendeur. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, Monsieur Chelsea. Si vous avez envie de le retrouver, allez donc voir sur le site d'Arte ce documentaire que j'ai trouvé très, très émouvant, qui s'appelle « Le premier mouvement de l'immobile ». Quant à nous, nous nous retrouverons le jeudi 16 février, même heure, même endroit. À bientôt. Ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.